que la Chine est un pays complexe, avec ses beautés, ses laideurs, mais certainement un intérêt intense pour un pays dont on sentait déjà qu'il allait jouer un rôle essentiel sur la scène mondiale, qu'il se réveillait, si l'on peut dire, après une période de tourmente très forte, et qu'il était en train d'inventer son avenir, et en grande partie l'avenir du monde.
Alors vous êtes jésuite, sinologue, politologue, poète et peintre. Toutes ces activités sont complémentaires, évidemment.
Oui, et puis elles sont complémentaires, effectivement. Et puis je ne fais pas autant de peinture ou de poésie que je voudrais. Politologue, je n'en fais plus beaucoup en ce moment, j'enseigne de la philosophie à Fudan. Donc disons que beaucoup de ces activités se passent par à-coup. Certainement, mon identité la plus forte et la plus constituante est d'être jésuite.
Enseigner la philosophie occidentale.
J'enseigne la philosophie comparée, notamment les spiritualités comparées, mais aussi effectivement le latin ou l'anthropologie religieuse à l'université Fudan, oui.
Comment réagissent les étudiants à votre enseignement ?
Comme à celui de tout professeur, quelquefois ils s'ennuient et quelquefois ils aiment bien. J'essaie qu'ils aiment plus souvent qu'ils ne s'ennuient.
Alors vous êtes quand même sinologue. Quel est votre axe de recherche ?
J'en ai en fait deux. Le premier porte sur la compréhension des religions chinoises sur le long terme, c'est-à-dire aujourd'hui, mais par rapport à tout ce qui s'est passé au cours des siècles précédents. Et je viens de sortir un livre chez Declet Brouwer qui s'appelle « L'Empire sans milieu » et c'est sur la sortie de la religion en Chine en mai de cette année pour essayer d'offrir un schéma général de compréhension du fait religieux en Chine. Et puis le second axe de recherche est plutôt sur le développement durable en Chine et la manière dont ce développement durable peut se réaliser et influencer ou non la gouvernance mondiale. Et là j'avais publié quelque chose en 2007 aux presses de Sciences Po qui s'appelait Chine brune ou Chine verte. Donc d'un côté les religions, de l'autre côté le développement durable et puis les deux sont liés par le fait qu'il s'agit aussi de voir comment les courants spirituels en Chine peuvent ou non contribuer à créer, disons, une nouvelle civilisation humaniste pour la Chine et pour ce que la Chine a à offrir au monde.
Alors justement, je reviens sur votre dernier ouvrage, L'Empire sans milieu, essai sur la sortie de la religion en Chine. Est-ce à dire que sans religion, l'Empire a perdu le Nord, ou tout du moins son axe ?
Oh non, ça n'est pas la thèse. La thèse, c'est que la Chine a connu une évolution de la relation entre religion et politique plus semblable à celle de l'Occident qu'on le dit souvent. C'est-à-dire que les deux ont été très longtemps mêlés. On dit parfois que la Chine est un État-Église, ça l'est resté longtemps, mais comme en Occident, il y a une certaine dissociation des croyances religieuses et du fait social dans son ensemble. Donc aujourd'hui, on est croyant en Chine sur une base beaucoup plus individuelle, beaucoup plus de choix personnels que ce n'était le cas auparavant.
Alors le choix personnel, certes, mais il y a un prix social tout de même pour une société, je dirais, sans spiritualité, en tout cas affichée. Et donc son garde-fou finalement.
Oui, c'est vrai que la Chine est un peu perdue sur le plan des valeurs qu'elle cherche, ou plus exactement que les Chinois, les uns et les autres, cherchent leur propre système de valeurs, leur garde-fou un peu partout, que comme c'est souvent le cas aussi en Occident, du reste, ils bricolent un petit peu leur système d'appartenance, mais à l'intérieur de ça, ils vont qu'à un cas, justement, c'est peut-être la caractéristique du fait religieux actuel, c'est-à-dire qu'on se projette dans l'avenir et pas seulement vers une origine, c'est-à-dire on essaie de trouver un sens à ce que l'on fait, à ce que l'on croit, en essayant de voir où l'on va, et beaucoup moins qu'auparavant, d'où l'on vient.
Alors vous vous intéressez aussi aux minorités chinoises ?
Oui, j'ai pendant 12-13 ans, mais je le fais un peu moins maintenant, mais je continue, suivi une de ces minorités dans le sud-ouest de la Chine, qu'on appelle les Yi, et dans leur langue les Nuosu, qui donc sont situés au sud-ouest du Sichuan. Et avec des amis, nous y avons créé une école, fait quelques projets pilotes, et la manière dont ces minorités tibéto-birmanes peuvent s'intégrer dans l'Empire chinois, mais pour revenir au thème dont on vient de parler, leur système religieux, la manière dont leurs sociétés montagnardes sont ou non durables, c'est-à-dire peuvent ou non continuer sur le plan naturel, social, économique, est un sujet qui également me passionne.
Alors on connaît les trois grandes religions chinoises, taoïsme, bouddhisme et confucianisme. Alors quel rôle joue le catholicisme dans cette histoire chinoise ?
Je crois d'abord qu'il faut parler du christianisme dans son ensemble, puisqu'aujourd'hui en Chine, on a beaucoup plus de protestants, par exemple, que de catholiques. Mais effectivement, les catholiques sont arrivés auparavant, essentiellement avec Matteo Ricci. On pourrait remonter plus loin dans l'histoire du christianisme en Chine, mais disons, ce qui s'est passé auparavant, au VIe siècle, au XIIe siècle, a été extrêmement éphémère. Tandis qu'à partir de la fin du XVIe siècle, il y a une présence continue catholique en Chine. Et c'est d'ailleurs un peu le rôle qu'ils y jouent. Ils montrent qu'on peut être à la fois chrétien et chinois. Voilà. Les protestants sont arrivés plutôt au début du XIXe siècle, ont une vitalité extraordinaire. La Chine pourrait devenir un jour un grand pays protestant, qui sait. Ils ont souvent des relations plus tendues avec la culture chinoise. Disons qu'il y a une diversité à l'intérieur du christianisme, d'ailleurs y compris à l'intérieur du protestantisme. On a un petit peu toutes les nuances de cette religion qui témoigne un petit peu de la diversité de la Chine dans son ensemble. Il y a des différences suivant les lieux, très fortement. Après tout, la Chine est un ensemble immense, donc on ne s'étonnera pas que le nord, l'ouest, le sud, l'est ont des caractéristiques différentes, et puis aussi des classes sociales différentes, des origines ethniques différentes, etc. Donc un kaléidoscope, et le catholicisme comme le protestantisme témoigne aussi de cette diversité.
Pourquoi les Chinois sont-ils plus attirés vers le protestantisme, donc ?
Je pense d'abord parce que c'est une religion qui est considérée un peu comme l'essence de l'Occident, qui est très liée à l'image des États-Unis, par exemple. Donc, il y a un attrait plus fort. Certainement également qu'à partir du XIXe siècle, les moyens des missionnaires protestants étaient très forts, appuyés par des congrégations puissantes aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs. Mais aussi, je crois, parce que les protestants s'appuient davantage sur les laïcs, et que donc il y a une sorte d'esprit missionnaire qui est davantage répandu que c'est le cas dans le catholicisme. Maintenant qu'on ne se prenne pas sur ce que je dis, le catholicisme aussi est en croissance en Chine. Il est, disons, souvent plus balancé, essayant davantage de trouver des équilibres. Et donc il y a une sorte d'enthousiasme du protestant qui est une force, du protestantisme, qui est une force et qui quelquefois se révèle une faiblesse quand les communautés ont du mal à trouver leur équilibre.
Il y a des répartitions géographiques précises ?
Non, on en trouve un peu partout. Bien sûr, l'Est est certainement une région où dans les villes, notamment, les protestants croissent beaucoup, mais aussi où les communautés catholiques traditionnelles, comme à Shanghai, continuent à avoir une croissance tout à fait notable. Mais les phénomènes culturels et religieux se répandent aujourd'hui en Chine, je dirais, comme une traînée de poudre.
J'imagine que la fréquentation et la connaissance de la Chine a changé votre regard d'homme d'église sur votre mission.
D'une certaine façon, oui. Quand on vit dans un monde interculturel et interreligieux, on relativise beaucoup de choses, notamment dans les expressions croyantes. En même temps, je pense que cette rencontre a approfondi une intuition qui était déjà là et qui n'a fait que se confirmer, à savoir que la tâche essentielle, j'allais dire, de la foi religieuse est certainement de toucher l'homme dans ce qu'il a de plus profond, dans son essence, de réveiller ses capacités de liberté, d'imagination, de création, je dirais, profondément. Il a été créé pour créer, et que c'est toujours un émerveillement de voir la diversité des formes et des milieux dans lesquels cet homme continue à créer, y compris à créer sa propre destinée et celle de ses semblables.
Pourquoi les jésuites français se sont-ils intéressés à la fin du XIXe siècle à l'italien Matteo Ricci ?
Alors, il y a eu un retour vers l'italien Matteo Ricci, comme vous dites, vers la fin du XIXe siècle, effectivement, parce que durant la première partie du XIXe siècle, ou disons à partir du retour des missionnaires en Chine, l'accent a d'abord été mis vers l'évangélisation directe. Il y avait un rapport, disons, avec la colonisation française ou européenne qui était souvent malsain. Et puis on s'est rendu compte que la nation chinoise se réveillait, que son identité culturelle, son écriture étaient des faits importants, et qu'au fond, les jésuites de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle s'étaient montrés beaucoup plus respectueux de l'essence de la culture chinoise et de la diversité de ses formes. Et Matteo Ricci en était le premier exemple, lui qui avait appris le chinois si bien, qui avait traduit les classiques, qui avait tout fait pour entrer dans un contact culturel profond avec les mandarins. Et donc sa figure est redevenue d'actualité, et cette actualité n'a fait que croître dans le siècle qui a suivi, jusqu'à cette année, puisqu'on a fêté le 11 mai 2010, le 400e anniversaire du décès de Matteo Ricci.
Mais la question que je me pose, moi, c'est pourquoi les Français sont-ils si impliqués avec cette figure, et peut-être pas tant que ça les Italiens ?
Non, les Italiens le sont beaucoup aussi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux centres intellectuels jésuites en Chine à la fin du XIXe siècle, qui étaient l'un et l'autre tenus par des Français, qui venaient soit de Paris, soit de ce qu'on appelait à l'époque la province de la Champagne, c'est-à-dire le nord de la France, en fait, et qui se situaient l'un à Shanghai, dans ce qu'on appelle Zikawe, qui est un grand centre intellectuel, et l'autre dans une campagne du Rebé, mais dans lequel il y avait un observatoire, des presses et d'autres lieux. Et donc, comme les Français, les jésuites français, disons, correspondaient davantage à l'apostolat intellectuel, ou du moins ils avaient créé les centres d'enseignement, de recherche, de sciences aussi, comme je l'ai dit, observatoires, musées d'histoire naturelle, etc., dans l'action des jésuites en Chine, ils ont eu du coup un intérêt beaucoup plus net pour Matteo Ricci. Puis n'oublions pas que Matteo Ricci était un Européen, j'allais dire, un jésuite italien, certes, mais qui était passé par le Portugal, qui connaissait un peu toutes les langues, et que son grand ami est le premier qui a publié, plus jeune que lui, et le premier qui a publié son journal, était un Français belge, qui s'appelait Nicolas Trigault. Donc dès le tout début du XVIIe siècle, on connaît en Europe Matteo Ricci par la figure de Nicolas Trigault.
Et du coup, on connaît la Chine. Alors, vous dirigez l'Institut Ricci de Taipei depuis 1996. Quel rôle joue l'Institut ?
Il avait été fondé par le père Yves Raguin en 1964-66, d'ailleurs sur la base de ce travail des jésuites français de Shanghai de la fin du XIXe siècle. Il avait été fondé pour deux tâches. La première, c'était de continuer une œuvre lexicographique. Donc nous avons fini avec l'Institut Ricci de Paris et beaucoup de sinologues un grand dictionnaire sino-français qui a été publié donc en 2001 et dont on vient de sortir la version numérique. Et puis l'autre versant, c'était les spiritualités comparées. C'est une réflexion sur ce que bouddhistes, taoïstes et christianisme ont apporté à l'humanité dans leur dialogue et le croisement de leurs méthodes spirituelles. Dans la deuxième moitié des années 90, nous y avons ajouté une troisième tâche qui était d'en faire une sorte de centre de réflexion pour le dialogue avec les intellectuels chinois d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous avons mené beaucoup d'actions sur, comme je l'ai dit, développement durable et gouvernance mondiale et la contribution que la Chine peut y apporter. Donc disons, c'est un petit centre de réflexion et de recherche qui n'a pas les moyens d'une université ou d'un centre public, mais qui essaie de compenser cela par une inventivité accrue, en étant un petit peu une tête de pont, en cherchant les sujets qui vont peser dans le futur, et puis en associant des équipes pluridisciplinaires et plurinationales pour réaliser des objectifs donnés.
Alors vous êtes aujourd'hui à Taipei, on peut imaginer que demain vous serez en Chine ?
Non, je suis déjà basé à Shanghai, et je fais l'aller-retour entre Shanghai et Taipei. Une équipe fixe à Taipei prend la responsabilité de nos actions. Cela fait longtemps, disons, que l'Institut Ricci de Taipei travaille directement en Chine continentale avec des organismes officiels chinois comme l'Académie des sciences sociales du Sichuan et d'autres institutions. Donc cela fait longtemps que nous sommes engagés dans un dialogue parfaitement légal, reconnu et de long terme.
Il y a une grande curiosité de la part des intellectuels chinois pour nos cultures.
Oui, bien sûr, mais j'allais dire que cette curiosité est depuis si longtemps que ça n'a fait tout à fait intégré. Les Chinois traduisent beaucoup plus des langues occidentales vers le chinois que nous ne traduisons du chinois vers les langues occidentales. Donc, curiosité, oui, mais ce n'est pas la curiosité de nouveau. En fait, la sophistication des intellectuels chinois est extrêmement poussée. Leurs travaux de traduction sont extrêmement profonds et larges. Et donc, je parlerai moins de curiosité maintenant que de dialogue dans lequel chacun doit faire preuve de curiosité d'écoute, mais aussi ne pas hésiter à mettre sur la table ses ressources propres.
Alors, puisque vous enseignez dans une université, vous côtoyez beaucoup de jeunes, quelle attitude ont les jeunes chinois face aux religions ou aux spiritualités, disons, au sens large ?
On ne peut pas généraliser, elle est aussi diverse que celle de l'ensemble de la population. Les sondages qui sont faits en Chine, car il y a maintenant des sondages en Chine, montrent que dans l'ensemble, plus on est jeune, plus on est intéressé par la religion. C'est sans doute une différence avec l'Occident. Maintenant, les différences ne sont pas énormes. Disons, ça va plutôt dans ce sens-là. Parce que les religions sont vues comme une ressource dont on a besoin pour construire une société plus humaine, plus morale, plus douce, je dirais, plus respectueuse. Voilà. Et puis, il y a également un problème d'identité. Ces religions sont diverses. Beaucoup de jeunes Chinois sont passionnés par le bouddhisme, mais d'autres trouvent dans le christianisme des choses qu'ils estiment manquer dans la culture chinoise. D'autres voient dans le taoïsme un univers un peu mystérieux qui les attire, etc. Donc, une fois encore, la diversité, surtout dans les villes, de ces croyances et souvent leur plasticité, peuvent beaucoup nous rappeler les quêtes qu'on trouve également dans l'Occident. mais peut-être finalement aujourd'hui avec moins de préjugés et une attitude plus ouverte que celle qu'on constate en Occident.
Parce que la religion, finalement, pour la Chine, c'est un espace de liberté.
En tout cas, un espace de libération, oui, de libération de discours trop convenus, par exemple, effectivement. Donc, les espaces de libération, comme vous le voyez, varient beaucoup d'un pays à un autre.
C'est ça qui est intéressant. Quel est votre avis sur l'émergence de la Chine sur le terrain de la mondialisation ?
Je pense qu'on a enregistré des gros progrès, quoi qu'on dise. C'est-à-dire que la Chine a essayé, à partir, disons, de 1992, par étapes successives, de s'insérer de plus en plus dans ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, qui est un bon terme, je trouve. C'est-à-dire la façon de construire un mode de délibération et de décision qui associe le plus de nations dans le monde. Un processus de long terme qui rencontre beaucoup de difficultés, mais qui a connu aussi des succès. Donc la Chine, par exemple, est devenue un partenaire important des opérations de paix de l'ONU, etc. En 2001, elle est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, et ainsi de suite. Elle connaît, j'allais dire, des crises de croissance. Il est évident qu'on trouve souvent que la Chine ne joue pas un rôle positif lorsqu'il s'agit de l'Iran, de l'environnement, du Soudan et d'autres sujets. Maintenant, elle est très consciente que quand elle joue trop fermée, son image se dégrade et que ce n'est pas bon pour elle à long terme. Donc, on assiste souvent à des assouplissements qui prennent un certain temps. La Chine est aussi une nation qui a un sens aigu de ses intérêts personnels, mais nous ne sommes pas bien différents de ce côté-là. Je crois qu'il faut faire confiance au dialogue, à l'éducation, à la patience, et qu'il y a une chance que la Chine joue un rôle positif dans la gouvernance mondiale, que c'est déjà le cas, que ça peut encore s'améliorer, que ses limites seront internes, c'est-à-dire qu'il faudrait que son système politique interne s'assouplisse davantage, qu'il y ait davantage de débats pour qu'elle ait encore un rôle plus positif. Mais disons, dans des circonstances qui ne sont déjà pas faciles, moi je suis étonné de voir depuis 15 ans à quel point la Chine finalement a joué un rôle important et positif, malgré des tâches effectivement très 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 importantes, disons, dans le processus de mondialisation.
Vous êtes plutôt optimiste donc. Quel est l'impact de l'ouverture du pays sur la politique intérieure ?
Pour le moment, la politique intérieure ne bouge pas beaucoup. Donc c'est une politique tournée vers l'équilibre et la croissance économique, vers éviter les crises, une obsession sécuritaire très forte. Donc effectivement, la Chine cale un peu quand il s'agit des réformes politiques. Et même jusqu'à un certain point de vue des réformes sociales, malgré des actions importantes engagées dans le domaine de la généralisation de l'offre de l'État en matière d'éducation et de santé. Donc c'est certainement un point qui sera à regarder dans les 5 prochaines années. Est-ce que la Chine est capable de bouger sur ce plan-là ? Elle a bougé beaucoup moins qu'elle ne l'a sur le plan économique d'une part, international de l'autre.
Quelle identité la Chine souhaite-t-elle affirmer dans le monde de demain ?
Elle insiste toujours sur le fait qu'elle est une puissance pacifique et une puissance, disons, d'harmonie. Voilà, alors c'est en grande partie un discours. Pas complètement, parce qu'avec son enrichissement, elle a des intérêts communs avec l'Occident. Par exemple, comme les États-Unis, elle a intérêt à assurer la sécurité des routes pétrolières. Voilà, il y a beaucoup de points comme ça. Évidemment, elle est aussi en système de compétition avec les autres nations sur ces mêmes matières premières. Voilà, mais c'est une question de point de vue. Qui est en compétition avec qui ? Cette compétition est réciproque. Elle ne comprend pas toujours également les points de vue des autres nations, mais des opérations comme l'exposition universelle de Shanghai, c'est aussi l'occasion d'ouvrir la Chine sur le monde d'un point de vue, j'allais dire, plus psychologique, pas seulement rationnel, mais enraciné dans une sorte d'affectif. Voilà. Donc elle veut jouer un rôle positif et elle a beaucoup étudié les problèmes qu'ont rencontrés les grands empires, notamment les empires allemands et japonais entre les deux guerres mondiales. Donc elle veut éviter ces raidissements et ces confrontations. Elle a beaucoup réfléchi sur l'histoire, elle estime qu'elle va être la première puissance du monde, mais elle sait que c'est cette montée en puissance même qui est le plus grand danger qu'elle rencontre.
Alors justement, ça tombe bien, je voulais vous poser la question si la Chine, première puissance mondiale, c'était pour demain ou c'était une vue de l'esprit ?
Ça peut être pour demain, enfin pour demain, pour après-demain, ça peut être le cas d'ici 15 ans environ, ça n'est pas sûr. Premier point, ça n'est pas sûr parce que il y a des bulles immobilières, il y a des bulles financières qui peuvent éclater. Ou plus exactement, il peut y avoir une crise du système économique et écologique mondial dans lequel la Chine serait prise comme n'importe quel autre pays. Deuxième point, si elle l'était, ça pourrait ne pas être pour très longtemps, car son système rencontre des limites et la population est vieillissante. Donc, il y a une dynamique chinoise qui n'est pas terminée, mais qui va rencontrer quelques crises structurelles qu'elle est quand même peut-être à même d'affronter parce qu'elle sait qu'il y a ces crises structurelles. Et à terme, elle peut être handicapée par le vieillissement de sa population, comme c'est le cas aujourd'hui du Japon.
Ah oui, donc finalement, tout n'est pas joué. Alors Benoît Vermander, vous pratiquez la calligraphie et la peinture. Est-ce que c'est pour mieux pénétrer l'âme chinoise ?
Ça a été certainement ça au départ, parce que les caractères chinois, par exemple, sont un monde de signification, un monde esthétique, voilà. Mais j'y ai trouvé aussi beaucoup de plaisir, parce que au départ, pour une raison très personnelle, parce que je n'ai pas une bonne vue, et donc j'aimais beaucoup peindre et dessiner quand j'étais petit, mais je savais pas bien peindre une pomme, par exemple, ou un vase, donc etc. Et la calligraphie ne se fonde pas du tout sur l'observation, mais plutôt sur une sorte de rectitude du mouvement intérieur. Hein, on peut faire des taches sur la feuille. Quand j'étais petit, on écrivait encore au porte-plume et je faisais d'horribles taches. C'était pas bien. Tandis que des belles taches d'encre sur une feuille de papier chinois, c'est beau. Ça montre le tracé du geste. Donc j'ai trouvé dans la peinture et la calligraphie chinoise une façon de m'exprimer, d'exprimer mon univers intérieur que ne me donnaient pas au départ les techniques artistiques occidentales. Maintenant, je pense que j'ai évolué et je mêle souvent l'un et l'autre. Hein. Toute technique peut être une voie de libération. Et je me suis beaucoup éloigné de la pratique traditionnelle de la calligraphie et la peinture chinoise. Mais ça a été pour moi une route pour trouver mon mode propre d'expression. Il faut quelquefois passer par l'autre, par l'altérité, pour se trouver soi-même, disons.
Quelle est la réaction des Chinois quand ils voient vos peintures et qu'ils vous voient pratiquer la calligraphie ?
Oh, d'abord, je fais ça souvent tout seul chez moi, mais je crois que beaucoup aiment bien mes œuvres. Ils sont sensibles surtout, je crois, au mélange des cultures ou des influences qu'ils révèlent. Ce qui les intéresse, c'est le fait qu'effectivement, ils peuvent reconnaître des tracés, des sens, des traditions, et à la fois voir ces traditions un petit peu subverties par ce que j'apporte de ma propre mémoire ou de ma propre imagination.
Finalement, c'est une manière de continuer le dialogue interculturel que vous pratiquez par ailleurs.
Oui, mais je dirais c'est le continuer parce que c'est d'abord un dialogue intraculturel. Donc pour moi, ça n'est pas fonctionnaliste, si j'ose dire. C'est pas pour. C'est ma manière de m'expliquer avec moi-même, de continuer un débat intraculturel, voire intra-religieux peut-être en partie, et effectivement de pouvoir, dans ce cas-là, le communiquer à d'autres qui vont créer en réponse.
Est-ce que Shanghai est la ville chinoise qui représente le mieux la mondialisation ? Et si oui, est-elle vraiment une ville monde ?
Oui, sans aucun doute. Par sa taille, par sa vitalité, par ses origines aussi, parce que ça a été le cas dès les concessions. Shanghai était finalement une petite ville qui a su tirer un parti énorme du fait de l'aide d'une des concessions ouvertes aux puissances étrangères après 1841, et donc qui a intégré cet aspect des choses dans son identité. Donc par sa taille, par sa taille de population, par son poids économique, par l'importance de la population étrangère qui est là et par l'identité elle-même shanghaïenne, qui est à la fois mondiale et locale, plus quelquefois que nationale. Oui, on peut dire, un, que Shanghai est une ville monde, deux, qu'elle est le meilleur exemple de la mondialisation à la chinoise.
Bruit de Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Nous écoutions l'entretien que j'ai réalisé l'été dernier à Shanghai avec Benoît Vermander, sinologue, politologue, jésuite, professeur de philosophie à l'université Fudan de Shanghai et directeur de l'Institut Ricci à Taipei. Benoît Vermander est l'auteur de L'Empire sans milieu, essai sur la sortie de la religion en Chine.